Bon matin, chers amis, et bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron, votre hôte, comme à chaque matin, qui vous accueille avec joie. Et nous poursuivrons aujourd'hui donc notre marche dans le livre de Daniel. D'ailleurs, là, on approche de plus en plus de la fin, puisque nous en sommes maintenant au chapitre 10. Et oui, effectivement, déjà ce matin, nous entamons le chapitre 10. Nous lirons les versets 1 à 9. Alors, c'est une portion que j'ai intitulée « Les dessous de l'histoire ». Donc, Daniel 10, versets 1 à 9, et je lis. « La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de fin lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Quelle vision, hein? On peut très bien comprendre le malaise ressenti par Daniel à la vue de ces choses vraiment, vraiment phénoménales. Alors, avec ce chapitre 10 donc, nous entrons dans la dernière section du livre de Daniel, cette dernière section qui est formée donc des chapitres 10 à 12. Et le chapitre 10 que nous entamons nous décrit une autre visite, une visite céleste, hein, de la grande visite, dirait l'autre, alors que les chapitres 11 et 12 contiennent une longue prophétie, très détaillée également, quant au futur. Alors, le chapitre 10, que nous commençons aujourd'hui, nous éclaire grandement sur la nature de la réalité. Il le fait en mettant en lumière que les causes et les effets humains sont loin de représenter les seules forces ou encore les seules influences en opération dans l'histoire du monde. Nous voyons ici Dieu qui révèle à Daniel quelque chose d'important et qui va aider Daniel et par extension qui va nous aider à nous-mêmes à rester forts et en paix en quelque circonstance que ce puisse être. La première chose qui vient à notre esprit lorsqu'on regarde le début de ce chapitre-là, c'est le souci de Daniel pour le peuple de Dieu. D'abord, nous voyons Daniel qui rapporte méticuleusement sa vision finale, hein, qui prend place la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Ici encore, la révélation est en grande partie énigmatique pour nous, et même pour les gens qui étaient avec Daniel, mais pour Daniel, lui, il la comprend. Nous lisons effectivement au verset 1, « Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. » Un peu plus tard, au verset 4, il précise la date de son expérience. En effet, on lit « Le 24e jour du premier mois » et au verset 3, il nous confie que pendant 3 semaines, il était dans le jeûne et la prière. « Je ne mangeai, dit-il, aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Ben, puisqu'il s'agissait du premier mois, c'était les jours de la célébration de la Pâque, hein, et aussi de la fête des pains sans levain qui la suivait. Daniel était donc, on peut dire que donc Daniel s'adonnait à ses exercices spirituels du 3 au 24 du mois d'Abid, qui plus tard sera appelé le mois de Nissan. On est un peu étonné ici du fait que Daniel soit encore à Babylone, et je m'explique. Pardon. Il faut se rappeler que le décret de Cyrus, souvenez, hein, le décret de Cyrus dans la première année de son règne, le décret qui permettait aux Juifs de retourner dans leur pays, c'est ce qui nous est rapporté d'ailleurs en Esdras, chapitre 1, verset 1 à 4, permettez-moi de vous le lire, « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Écoutez, lorsque on entend ce décret-là, on se dit certainement que tout Juda, tous les exilés, tous les captifs, immédiatement, ont bouclé leurs valises et ont dit, ben voilà, on entre à la maison sans aucun autre délai, sans plus tarder. C'est pas ce qui s'est produit, cependant. Même Daniel est encore à Babylone. Pourquoi est-ce que Daniel n'est pas retourné à sa Jérusalem bien-aimée? Au verset 4, d'ailleurs, il nous confirme qu'il était encore à Babylone. Nous lisons, « Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. » Ça, c'est le Tigre, hein, le fleuve, le Tigre. Bon, écoutez, c'est pour le moins un peu étonnant. On se serait attendu à ce que Daniel soit parmi les premiers à retourner à Jérusalem. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de foi, c'est un homme de prière. Est-ce qu'il était rendu trop vieux? L'Écriture ne répond pas à cette question. Cependant, on peut croire que le Seigneur lui avait donné à Daniel une conviction de demeurer à Babylone. Écoutez, Daniel ici, là, ce n'est pas une première jeunesse, hein, ce n'est pas une recrue. Et dans les 80 avancés, et il savait pertinemment bien que retourner à Jérusalem impliquait la reconstruction des murs de la ville, la reconstruction du temple. Quand vous avez entre 80 et 90, n'est-ce pas, vous ne vous lancez pas dans un projet de construction comme celui-là. Alors vraisemblablement, il a décidé de rester à Babylone et de se consacrer à la prière. Ça a été vraisemblablement sa contribution, et la prière est toujours une contribution fort efficace. Quoi qu'il en soit, c'est le temps de la Pâque. La Pâque, bien sûr, c'est un temps de célébration de la délivrance divine, un temps de restauration, un temps de se réjouir de ce que Dieu a pourvu un moyen de retourner à Jérusalem. Alors, verset 2. « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, mais nous sommes dans un temps de réjouissance. Nous sommes dans une période de restauration. Pourquoi se fait-il que Daniel passe 3 semaines dans le deuil? Pourquoi ce deuil? Bien vraisemblablement, parce qu'il savait que seul un très petit nombre avait saisi l'opportunité de retourner dans leur pays natal, dans la terre que Dieu leur avait donnée. Et il avait aussi certainement eu écho, n'est-ce pas, de l'opposition féroce au programme de reconstruction de la ville et du temple. On sait que tout cela nous est rapporté en détail dans le livre de Néhémie. Il fut un temps même, hein, où ils avaient un marteau dans la main droite et une épée dans la main gauche pour se protéger de ceux qui voulaient les assaillir et les empêcher de rebâtir et la ville et le temple. Alors, le peuple qui y œuvrait était vraisemblablement en proie au découragement. Vous voulez rebâtir, vous êtes retourné dans votre pays avec de grandes attentes et voilà que rien ne fonctionne. Il y a eu d'ailleurs plusieurs arrêts prolongés dans leur construction. Le peuple devait être en proie au découragement et le travail de restauration se voyait de ce fait compromis. Et c'est cela qui amène Daniel dans cette intercession passionnée et sacrificielle. Vous savez, le besoin de croyants comme Daniel n'a pas diminué avec le passage des ans. L'histoire de l'Église, elle est faite de fidèles comme lui qui, rendus à l'automne de leur vie, se sont consacrés à la prière, à l'intercession et même au jeûne au profit de l'Église de Dieu dans leur localité et aussi au profit de l'Église de Dieu à plus grande échelle. La compréhension, la sagesse et la connaissance de Daniel venaient du fait qu'il était un homme de prière. Nous l'avons vu abondamment dans les chapitres qui ont précédé. Et l'Église contemporaine a tellement, mais tellement besoin, a tellement à réapprendre à cet égard. Dans plusieurs églises et même dans plusieurs organisations chrétiennes, c'est la personnalité qui prime sur la sagesse et sur la compréhension. On tente de compenser les faiblesses par de nouveaux programmes et non par une prière fidèle. On fait face à l'opposition, aux critiques en mettant l'accent sur la croissance en nombre plutôt que sur la profondeur et sur la qualité. Et les fondements, d'ailleurs, sont rarement remis en question parce qu'on est devenu trop absorbé par la création d'activités visibles et passez-moi l'expression, par l'esprit de business. Les leaders chrétiens comme Daniel, qui consacrent leur énergie à sonder la parole de Dieu, à rechercher sa face plutôt que de s'assurer un billet aller seulement pour Babylone, ne sont plus légion dans l'Église contemporaine, vous savez. Comme l'écrivait si bien E.M. Burns dans son excellent bouquin sur la prière, permettez-moi de traduire ici sa phrase. L'Église cherche de meilleures méthodes, Dieu cherche de meilleurs hommes, parce que les hommes sont la méthode de Dieu. Permettez-moi de répéter. L'Église cherche de meilleures méthodes, Dieu, lui, cherche de meilleurs hommes, parce que les hommes sont la méthode de Dieu. Mon deuxième point, la vision de la suffisance de Dieu, versets 4 à 9. Daniel se retrouve donc sur les bords du Tigre, du fleuve Hiddekel, en compagnie d'autres gens, et son regard est irrésistiblement attiré par une personne qui se tient devant lui, une figure majestueuse qui échappe cependant à ses compagnons. Enfin, qui n'échappe pas complètement, ils ne l'ont pas vu, mais ont été saisis de frayeur. Verset 7. « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. » Alors, les compagnons ne voient pas le personnage, mais ils sentent puissamment sa présence. Ce n'est pas sans nous rappeler, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, l'expérience de Paul et de ses compagnons sur la route de Damas lors de la conversion de Paul. Paul, lui, vraiment entend la voix du Seigneur, mais ses compagnons entendent un bruit, une espèce de bruit de tonnerre. Ils sont craintifs, ils savent que quelque chose se passe, mais ce n'était pas pour eux la révélation. Les versets 8 et 9 nous disent ceci. Daniel continue donc son récit. « Je restais seul. » Et je vis cette grande vision. Il est seul parce que les autres sont allés se cacher. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Voyez-vous, Daniel est à court de mots, il est à court de paroles pour exprimer la gloire de la présence de cet homme. Il fait appel d'ailleurs à une terminologie de métaux précieux, de pierres précieuses et d'éléments naturels pour décrire l'inexprimable beauté qui se présente à lui. Les versets 5 et 6. « Je levai les yeux, je regardai, voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'uphase. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Qui était donc cette figure? Ben écoutez, il semble bien qu'il s'agisse ici d'une manifestation du Christ préincarné, d'une christophanie. On voit d'ailleurs que l'impact de sa présence surpasse de loin celui de l'apparition de Gabriel ou de l'archange Michel. Hein. Qui plus est, on retrouve plusieurs similarités avec, ou plutôt entre cette vision et d'autres christophanies, d'autres apparitions du Christ dans la Bible, hein, comme en Ézéchiel 1, 26 et suivant, là, et particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 12 à 15, où le Christ est décrit en train de marcher parmi les églises. Écoutez bien, on retrouve à peu près la même terminologie que dans Daniel ici. L'apôtre Jean de dire dans l'Apocalypse, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ah, ça ressemble drôlement à ce qu'on vient de lire dans Daniel. Hein? On voit par ailleurs que Daniel s'adresse à lui avec une révérence beaucoup plus grande que lors des visions précédentes. À trois reprises, il va l'appeler « mon Seigneur », au verset 16, au verset 17 et au verset 19, comme on le verra lors de notre prochaine émission. Il y a deux éléments qui ont dû particulièrement retenir l'attention de Daniel ici. Le premier, on le retrouve au verset 5, où nous lisons que l'homme était vêtu de lin. Ben, rappelons-nous que les vêtements de lin étaient portés par les prêtres, et en particulier par le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait une fois par année dans le lieu très saint pour faire l'expiation du peuple. Et ça rappelait à Daniel, dans son exil, les sacrifices du temple et le grand jour des expiations ordonné par Dieu pour le pardon des péchés. Le deuxième élément, au verset 6, nous lisons, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Tout ceci nous suggère puissance et gloire. Mais d'une manière particulière, la question de l'éclair ici, hein, l'éclair accompagne fréquemment la venue du Seigneur dans l'Écriture sainte. Je pourrais vous mentionner une pléthore de versets. Vous n'avez qu'à regarder dans Ézéchiel, on en retrouve partout, entre autres, chapitre 1, verset 13 et 14, chapitre 4, verset 5, chapitre 8, verset 5, chapitre 11, verset 9, chapitre 16, verset 18, et le reste, et le reste. Était-ce pour rappeler à Daniel la fidélité alliancielle du Seigneur, que lui-même avait confessé au chapitre précédent? Voyez-vous, ce que Dieu veut faire là, ce que Dieu veut imprimer dans l'esprit de Daniel, c'est que ce Dieu-là, il est un Dieu de pardon et un Dieu de fidélité. Daniel, avec raison, était soucieux, était inquiet quant aux perspectives d'avenir du royaume de Dieu, et il était grandement affecté par les péchés du peuple. Cependant, son Dieu demeure le même. Il n'a pas changé, voyez. Le Dieu du passé, le Dieu de l'Alliance au Sinaï, le Dieu des sacrifices à Jérusalem, demeure le Tout-Puissant, capable de satisfaire tous les besoins de son peuple, y compris le besoin fondamental, premier et ultime, du pardon. Et nous avons ici une importante vérité à garder à l'esprit, chers amis. Lorsque les temps nous semblent sombres et nous vivons, dans des temps qui effectivement nous semblent sombres. Alors c'est une grande vérité qu'il nous faille garder à l'esprit. La connaissance de l'œuvre de grâce de Dieu dans le passé nous encourage à lui faire confiance et à rechercher sa bénédiction dans le présent et aussi avec confiance pour le futur. Hein? Rappelons-nous ce que disait David à plusieurs endroits dans le livre des psaumes, entre autres, et particulièrement dans le psaume 138, verset 2. « Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Notre Dieu a une grande renommée. Rappelons-nous les promesses qu'il a accomplies dans le passé, et tout cela se porte garant et du présent et de l'avenir. Et tout cela, bien sûr, valorise aussi la connaissance de l'histoire de l'Église et nous évite de canoniser un individu ou une époque en pensant que c'était le bon temps qui ne peut plus revenir. Vous voyez, lorsque nous lisons les merveilles opérées par Dieu dans le passé, nous sommes motivés à prier, à dire « Ô Seigneur, agis de nouveau en notre faveur comme tu l'as fait dans le passé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Hein? On tend tellement souvent à nourrir une vision réductionniste de notre Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas diminué, il n'a pas foulé, il n'a pas rapetissé, il n'a pas perdu sa puissance. Hein? Et il va sans dire que cette connaissance de Dieu commence, bien sûr, par notre entrée dans son royaume. Vous savez, on n'entre pas dans le royaume de Dieu comme on entre dans un centre commercial. Hein? Le royaume de Dieu, c'est la sphère du règne de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de géographique, de physique, de délimité. C'est le règne absolu de notre Dieu. Permettez-moi de vous lire une portion importante de l'Écriture, qu'on retrouve, une portion fort connue d'ailleurs, qu'on retrouve au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, et au verset 3, c'est Jésus qui discute avec un monsieur qui répond au nom de Nicodème, un docteur de la loi. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, c'est important comme affirmation. « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il y a une condition ici. À moins de naître de nouveau, un homme ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est une impossibilité. Ne peut pas veut dire c'est impossible pour lui de voir le royaume de Dieu. Maintenant, c'est une phrase qui est quand même troublante. Hein? Si un homme ne naît de nouveau, est-ce qu'un homme, est-ce qu'un être humain est capable de se donner naissance à lui-même? Ah ben voilà, je vais faire un gros effort et je vais accoucher à nouveau de moi-même. Pas du tout. C'est pas dans ce sens-là que la parole est dirigée. Hein? Qui veut dire, bien sûr, naître spirituellement. Naître spirituellement. Pour la simple raison que nous sommes morts spirituellement depuis la chute. Rappelons-nous, hein? Rappelons-nous que le Seigneur avait dit à Adam et Ève, « Le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre défendu, vous mourrez. » Et la Bible nous affirme sans embâge qu'effectivement ils sont morts spirituellement et que depuis ce temps-là, ils engendrent des morts spirituelles. Nous sommes morts spirituellement. Nous sommes peut-être des religieux, mais spirituellement, nous sommes morts et nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Et naître de nouveau, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle la seule façon de naître de nouveau, c'est de s'abandonner, c'est de se lancer à corps perdu dans les bras de Dieu, n'est-ce pas, de s'abandonner à lui, de le supplier, n'est-ce pas, d'intervenir en notre faveur. Parce que c'est encore l'œuvre de Dieu que de nous faire naître de nouveau. Jean chapitre 1, versets 12 et 13 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus par la foi, à ceux qui croient en son nom. » Croire au nom de quelqu'un, c'est croire en sa personne, hein? Et c'est croire en son œuvre. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, hein, la parole faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En simple là, lorsque l'Esprit du Seigneur fait naître quelqu'un de nouveau, il le rend conscient de son caractère pécheur, il le rend conscient qu'il est pécheur, qu'il a besoin de salut, qu'il ne peut se sauver lui-même, il l'amène à la repentance, à réaliser la vanité de sa vie, et il l'amène à recevoir le sacrifice que le Christ Jésus a fait à la place, comme substitut de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Où trouve-t-on cette bonne nouvelle? Ben, dans la bonne nouvelle, hein? On trouve la bonne nouvelle dans bonne nouvelle, dans l'évangile, c'est ce que veut dire le mot évangile, veut dire bonne nouvelle. Donc, en terminant l'émission de ce matin, je ne saurais trop vous enjoindre de plonger vos regards dans l'évangile, dans cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir ce grand salut, pour être transporté du royaume des ténèbres, pour employer l'expression de Paul dans Colossiens, dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de la lumière. Et ainsi de jouir de cette réconciliation, de la faveur de Dieu et d'une relation avec lui au quotidien, avec l'absolue certitude d'une éternité de paix, de gloire, de joie et de félicité en sa présence. Qu'il en soit ainsi pour vous, chers amis. Alors, ça se termine donc comme ça aujourd'hui, mais ça va revenir cet après-midi, cette émission-là, en rediffusion, à 14h. Entre-temps, vous pouvez nous écrire à ERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Vous trouverez notre courriel, si vous voulez nous écrire un mail, hein, comme on dit en France. Si vous voulez nous écrire un courriel, alors vous le trouverez sur notre site internet de la station foifm.com et notre numéro de téléphone, ou je devrais dire nos numéros de téléphone pour la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Il me reste à vous exprimer ma gratitude d'avoir été là avec moi encore aujourd'hui. Et je vous souhaite une journée ultra bénie et vous êtes conviés, vous le savez déjà, pour la prochaine. À bientôt.